Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes avec plaisir ici à vos côtés.
Bien réveillé.
Tout à fait, exactement. Et nous sommes surtout le mercredi 15 décembre. Si James Brown est le créateur du funk, George Clinton, Julien, en est le gardien. Il y a 46 ans, le 15 décembre 1976, sortait l'un des disques fondateurs de la musique funk psychédélique, l'album Mothership Connection du groupe du fantasque George Clinton, Parliament. George Clinton qui continue de se produire sur scène, la partition à la toute fin de l'émission à 6h20. On met le funk de côté pour le moment. Retour sur l'actualité à la une ce matin, Julien.
Cette question, mais que va bien pouvoir nous dire Emmanuel Macron? Vous savez que le chef de l'État a enregistré dimanche une émission qui sera diffusée ce soir sur TF1 et LCI. Un entretien qui joue sciemment sur une ambiguïté. Qui va s'adresser aux Français? Le président de la République ou l'éventuel candidat à sa réélection? Ses opposants, en tout cas, ont leur petite idée.
Valérie Pécresse demande d'ailleurs au CSA à ce que le temps de parole d'Emmanuel Macron soit décompté.
En tout cas, le chef de l'État entend bien maintenir le faux suspense jusqu'au dernier moment. N'attendez pas ce soir à ce qu'il se déclare candidat. Non, le président, nous dit-on, va revenir sur les crises qu'il a traversées à l'Élysée. Solder le bilan du quinquennat pour mieux esquisser le prochain. Est-ce une bonne tactique à 4 mois du premier tour? On en parle à 6h10 avec le politologue Jean-Christophe Gallien.
Si je vous demande, Julien, quel est votre ressenti météo par rapport à l'année qui vient de s'écouler, vous avez eu quoi, plutôt chaud?
Il a plu abondamment été, il a même fait froid, et puis l'automne n'a pas non plus été exceptionnel.
Voilà, vous êtes la preuve que notre ressenti n'est pas le reflet de la réalité, car figurez-vous que selon Météo France, et je parle aussi sous votre contrôle,
je vous écoute.
2021 a été chaude d'après les relevés de température. Alors pas aussi chaude que 2020, certes, qui était une année historique en France et en Europe, mais nous sommes quand même en excédent thermique de 0,2 degrés par rapport à la normale. On va faire le bilan, dresser le portrait climatologique de l'année 2021 à 6h moins le quart avec le climatologue Météo France, Mathieu Sorel.
Et concernant la météo de ce 15 décembre alors, bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Amblin. Bonjour. Déjà ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui on est 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Hein. Voilà. Donc déjà ça va avec ce que vous disiez.
Contrairement à ce qu'on
Exactement.
On prend les mêmes et on recommence.
Oui, même scénario avec beaucoup de grisailles ce matin. C'est vrai que depuis lundi on a ce scénario-là. Attention, beaucoup de brouillard. Quasiment toutes les régions sont concernées, sauf le pourtour méditerranéen et la Corse. Mais partout ailleurs, on a du brouillard, donc soyez vraiment très prudents. Dans les vallées du centre-est, les brouillards risquent même d'être givrants. Ce matin, on a des températures négatives. Cet après-midi, une nouvelle fois, le soleil brille dans le sud. Le soleil brille en montagne, mais au nord de la Loire, on a encore un plafond gris au-dessus de la tête, avec même des brouillards qui s'accrochent. Donc c'est encore pas terrible aujourd'hui. Les températures, alors elles sont fraîches hein, ce matin. Je vous disais des températures au-dessus, c'est pour cet après-midi. Hein. Ce matin, c'est frais. On a moins 5 à 1 degré dans le centre-est et le nord-est, donc entre Lyon et Strasbourg. On a 2 à 9 degrés partout ailleurs, surtout à l'ouest. Et puis, les températures sont au-dessus des normales cet après-midi avec 6 à 9 dans le nord-est, 9 à 11 partout et jusqu'à 17 dans le sud.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. La vaccination contre le Covid élargie à 360 000 petits Français. Les 5-11 ans présentant des risques peuvent recevoir leur injection dès aujourd'hui. Mais vacciner un enfant, c'est particulier. Alors dans les centres, on s'adapte, on fait même venir le Père Noël. Reportage en début de journal. Emmanuel Macron, seul contre toute l'opposition, elle réclame que son temps de parole soit décompté. Et même s'il n'est pas encore déclaré candidat, une bataille politique qui n'est pas nouvelle, alors que le président donnera ce soir une longue interview à la télévision. Et puis les magistrats vont battre le pavé. Aujourd'hui, mobilisation inédite à l'appel de 18 syndicats. Ils demandent des moyens dignes pour la justice. Témoignage à suivre d'une magistrate du tribunal de Bobigny.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Jamais un variant du Covid ne s'était propagé aussi vite qu'Omicron. L'alerte de l'OMS hier, alors que plus de 63 000 cas ont été détectés ces dernières 24 heures en France. Coup d'envoi aujourd'hui de la vaccination des 5-11 ans considérés comme à risque. Ils sont 360 000 avant un élargissement de la campagne à tous les enfants. Des petits patients pour qui la prise en charge doit être adaptée. Dans certains centres, on a trouver la solution pour que tout se passe le mieux possible. Le reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot.
Au vaccinodrome de Douai, Salia Grévin, la responsable, a organisé minutieusement ce dispositif particulier pour les enfants.
On va installer 4 boxes et dans ces boxes, c'est systématiquement un médecin. On est vraiment dans un périmètre restreint, médecin, infirmier et évidemment pédiatre.
Objectif, accueillir les 5-11 ans dans un environnement rassurant, loin de l'ambiance parfois un peu stressante du centre.
Il faut que l'enfant soit en sécurité. Hier après-midi, on a vacciné 1300 personnes, c'était tendu. Les gens étaient pressés, il y avait des gens qui avaient rendez-vous, il y avait des gens qui n'avaient pas rendez-vous. Les gens sont plus ou moins contents, enfin bref, des situations desquelles on veut extraire les enfants.
Des coloriages, un écran de télé et des jeux pour adoucir l'épreuve de la piqûre. À quelques kilomètres de là, Valenciennes, c'est dans une ambiance de Noël que l'on accueillera les enfants candidats au vaccin.
Et on a mis ici un petit chalet en fait, où demain le Père Noël en personne sera là.
Rémi Kasprick, infirmier coordonnateur.
On a eu aussi l'autorisation par la SACEM de diffuser de la musique de Noël. On a une infirmière qui sera spécialement dédiée aux enfants et elle prendra le temps qu'il faudra pour les rassurer, pour y aller, voilà. Et après, quand les enfants seront fait vacciner, ils pourront patienter ici ou avec le Père Noël pendant les 15 minutes obligatoires.
Une filière pédiatrique qui devrait être bien rodée quand la vaccination sera ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans.
Lionel Gougelot, correspondant Europe 1 dans le Nord, entrée en vigueur aujourd'hui aussi de la dose de rappel obligatoire pour les plus de 65 ans qui souhaitent conserver leur passe sanitaire. 400 000 personnes éligibles n'ont pas reçu leur injection.
Un pour tous et tous pour un, enfin plutôt un tout seul et tous contre un, hein, c'est Emmanuel Macron.
Hein. Oui, hein, le président en interview ce soir en prime time sur TF1 et pendant 2 heures. Un rêve pour n'importe quel candidat, mais il est réservé à Emmanuel Macron. Conséquence, l'opposition saisit le CSA et veut que son temps de parole soit décompté comme n'importe quel prétendant à l'Élysée. Alexandre Chauveau, cette bataille du temps de parole, c'est du déjà vu.
Oui, et pour preuve, Valérie Pécresse défendait en janvier 2012 Nicolas Sarkozy, alors candidat à sa réélection, avec exactement les mêmes arguments que la majorité aujourd'hui. 10 ans plus tard, la candidate a donc été la première à attaquer Emmanuel Macron sur le sujet. Pour autant, la requête n'a aucune chance d'aboutir selon Grégoire Végel, ancien chef de département au CSA, responsable du pluralisme et des campagnes électorales.
Donc on peut comprendre qu'il soit choqué, mais c'est la règle qui est un petit peu choquante. Et cette règle aurait pu être modifiée si, par exemple, le CSA avait fait comme en 2006, il avait ouvert le temps de décompte de l'élection présidentielle au mois de décembre, par exemple.
2006 a été en fait la seule année qui a fait exception à la règle. Le temps de parole du président sortant ne peut être normalement décompté comme celui d'un candidat qu'à partir du 1er janvier. Emmanuel Macron le sait et il en joue. Il va en un peu plus d'un mois réaliser sa 3e grande intervention télévisée. Le président de la République a également conscience que le jour où il sera candidat, il ne sera plus vraiment président et donc plus vulnérable. Chose qu'Emmanuel Macron souhaite retarder le plus tard possible.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Et on va en reparler, on va analyser le timing de cette intervention présidentielle tout à l'heure à 6h10 avec le politologue Jean-Christophe Gallien.
Panique à quai pour le premier week-end de départ en vacances. Que vous ayez opté pour le ski dans les Alpes ou l'air frais de la côte atlantique, vous risquez d'être impacté par l'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats de la SNCF, notamment sur les axes sud-est et sud-ouest. Direction et syndicats sont en discussion. Mode des camps, l'objectif est clair pour la SNCF. Il faut tout faire pour éviter que les voyageurs soient bloqués en gare.
En effet, les discussions ont débuté lundi soir, hein, dès l'annonce de l'appel à la grève. Des négociations intenses et permanentes, précise-t-on dans l'entourage de la direction de la SNCF, qui veut éviter au maximum un mouvement de grève sur les axes sud-est, sud-ouest et atlantique pour le week-end de Noël. Les TER de Nouvelle-Aquitaine pourraient également être impactés. Même réaction, hein, du côté du gouvernement, où l'on souhaite minorer au maximum l'impact de cette grève pour les Français qui n'ont qu'une envie en cette fin d'année, pouvoir se retrouver en famille pour les fêtes. Les syndicats demandent une amélioration de leurs conditions de travail, notamment le manque d'effectifs. Ils réclament donc des embauches supplémentaires. Autre demande, des augmentations de salaire ainsi qu'une prime Covid de 1 000 euros pour les agents qui ont travaillé et assuré le trafic des trains, notamment pendant la première vague. La CFDT, Sudrail et l'UNSA attendent désormais un geste fort de la part de la direction de la SNCF pour lever l'appel à la mobilisation.
Maude Descamps et la SNCF annoncent des vérifications renforcées des passes sanitaires, toujours obligatoires pour voyager. Depuis lundi, un train sur 3 est contrôlé.
Autre mobilisation très attendue lieu cette marée de robes à midi devant les tribunaux français et le ministère de l'économie.
Oui, hein, les magistrats accompagnés des avocats et greffiers réclament plus de moyens à l'origine de la contestation. Cette tribune des 3000 publiée dans Le Monde fin novembre, aujourd'hui elle compte 5500 signataires. Et pour bien comprendre ce mal-être, nous avons rencontré la présidente de l'une des chambres des comparutions immédiates au tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. C'est l'un des plus chargés de France. Elle nous raconte son quotidien et ses difficultés. Le reportage de Gladys Lafitte.
Sonia Lambroso est magistrate depuis 37 ans.
Bonjour.
Sous les affiches de cinéma qui décorent son bureau, la pile de dossiers du jour, préparée le matin.
9 dossiers, c'est alors peut-être plutôt le niveau bas. Des dossiers qui sont en apparence simples, mais on a notamment une affaire d'agression sexuelle extrêmement désagréable à juger. 1 heure par personne. Quand on commence à 13h, on finit au mieux à 23h. J'arrive à tenir jusqu'à des heures extrêmement avancées, jusqu'à 2h25 vendredi dernier. On tient sur les nerfs, éventuellement on s'écroule après. Mais moi je dis toujours que quand je suis à l'audience, j'ai pas faim, j'ai pas soif, j'ai pas chaud.
Ce dont elle manque, du temps pour bien juger.
Une des conséquences, ça peut être qu'on ne laisse pas le temps aux gens de s'exprimer. Ils auront l'impression d'avoir été mal jugés. La même impression simplement parce qu'ils auront attendu des heures à l'audience.
Avec 2 à 3 jours d'audience par semaine, elle doit continuer à travailler le week-end et sur ses vacances, notamment pour motiver ses jugements.
Et quand on a un problème, eh ben on vient quand même. On a un morceau au moins de la vie des gens entre nos mains. Pas seulement nous qui pouvons mettre les gens en prison. C'est une responsabilité énorme.
Mais aujourd'hui, Sonia Lombroso ne manifestera pas. Trop de dossiers en haut de la pile.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
Et lui aussi a beaucoup de dossiers à régler. Lui, c'est l'homme du maintien en Ligue 1, Pascal Duprat.
Il vient d'être nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne pour remplacer Claude Puel, remercié. Les Verts sont derniers de Ligue 1 et espèrent notamment avec cette nomination connaître le même destin que Toulouse en 2016. Cyril de la Morinerie, le Haut-Savoyard grande gueule, avait sauvé in extremis le TFC de la relégation.
Oui, Pascal Duprat, c'était d'abord le Giroud des Viantonon Gaillard. Le technicien de 59 ans a remonté le club au Savoyard des divisions régionales jusqu'en Ligue 1, avant d'être appelé à la rescousse par Toulouse en 2016. Contre toute attente, Pascal Duprat sauve le club toulousain en Ligue 1 lors de la dernière journée. Sa causerie d'avant-match, immortalisée par Canal+, est restée dans la légende.
Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir si vous avez la capacité de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
Pascal Duprat est un meneur d'hommes hors pair. Sa méthode, être proche de ses joueurs, comme il l'a révélé il y a quelques années sur Europe 1.
J'ai beaucoup d'empathie pour les joueurs de foot professionnels, parce que j'ai été moi-même joueur, et parce que je me souviens que j'ai raté beaucoup de passes. Et souvent je leur dis, vous savez, quand j'étais joueur professionnel, j'ai raté certainement plus de passes que vous tous réunis.
Mais Pascal Duprat n'a pas connu la même réussite à Caen, où il fut licencié en mars dernier, après une série de contre-performances en Ligue 2.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Un haut savoyard grande gueule, vous dites.
Oui.
D'accord, je ne me sens pas du tout visé. Merci beaucoup, Alban Le Prince, pour ce journal.
Il est 5h10 sur Europe 1, l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 407 Eldorado Castellet. Prometteur troisième d'une épreuve similaire le 23 novembre à Vincennes, à l'issue d'une fin de course remarquée, il s'entend visiblement à merveille avec son apprenti jockey Mathilde Collat. Ce tandem s'est d'ailleurs déjà imposé l'été dernier à Enghien et ces deux-là, au vu de l'adversité proposée cet après-midi, me semblent capables de rééditer. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la 4e course, le numéro 7, Eldorado Castellet.
Eldorado Castellet, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une petite demi-heure pour les pronostics du Quintet. Vous, chers auditeurs, vous restez avec nous. On va ouvrir le pressing dans moins d'une minute.
Notre revue de presse avec au menu ce matin, c'est 3 questions. Quelles sont les plateformes qui prennent le plus soin de leurs livreurs? Qui est Super Moustache? C'est une vraie question. Et connaissez-vous le Nike du futur? Ben dis donc, réponse au pluriel dans un instant. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11 et c'est l'heure du pressing. Notre petit coup de pouce pour vous aider à vous réveiller. On est bien fiers. On s'y met à 3 d'ailleurs. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec l'une de vos journaux pour le petit coup de pouce du réveil. Macron cherche la riposte pour contrer Pécresse, titre Le Figaro, alors que le chef de l'État a choisi de défendre son bilan ce soir à la télévision. Une interview qui sonne comme une réponse à la poussée de la candidate Les Républicains dans les sondages. Un tout autre sujet à la une du Parisien aujourd'hui. arrivée en France. Le retour en force des 90 km/h, titre Le Quotidien. 37 départements ont depuis 2 ans rétabli la vitesse maximale sur les routes secondaires. 10 autres envisagent de sauter le pas. Et puis, l'OL sonne creux. C'est la une de l'équipe qui revient sur la période très compliquée qu'est en train de traverser l'Olympique lyonnais. Juninho, le directeur sportif, est sur le départ. L'entraîneur, Peter Bosch, est sur un siège éjectable. Quant à Jean-Michel Aulas, le fameux président, il est menacé de suspension. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous retenu ce matin?
Il vous est sans doute déjà arrivé, et peut-être encore très récemment, de commander une voiture VTC pour aller travailler avec les horaires de nuit. Franchement, il n'y a pas de transport en commun, vous le savez bien.
Oui.
Il vous est arrivé peut-être de commander un repas livré chez vous, de faire livrer vos courses en quelques minutes. Pour tous ces services, vous passez par des plateformes sur Internet, des applications sur vos smartphones, des sociétés qui, pour la plupart, font appel à des travailleurs indépendants. Eh bien, le député LREM Mounir Majoubi a décidé de se pencher sur les conditions de travail de ceux qui parcourent des centaines de kilomètres pour vous mener d'un point A à un point B ou pour vous livrer le dîner du mardi soir. Suivez mon regard. C'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors, il faut bien le dire, pour tout ce qui est droit et conditions de travail, c'est un petit peu le Far West, et il se trouve que la Commission européenne souhaite lancer une homogénéisation du modèle économique avec pour objectif salarier le plus grand nombre. Ce sont donc 70 plateformes sur 125 qui ont été passées à la moulinette, classées par catégorie. Alors on ne parle pas d'Amazon hein, ici, qui sous-traite ses livraisons. Pour ce qui est des conducteurs VTC, c'est une société française qui est gratifiée de la meilleure note, E-Tech, et grâce notamment à ses commissions les plus basses du marché.
E-Tech, vous dites, c'est pas plutôt Itch?
Itch ? Ah mais c'est Itch, bien
mais
sûr.
Oui, c'est Itch, on dit.
Ouais, c'est Itch, hein. Je prends pas beaucoup le VTC,
non,
en fait,
ça se voit.
Hein. Itch, ah oui, je sais pas pourquoi. J'ai très très mal écrit en plus, très mal orthographié. Donc, bah, par rapport à
donc
Uber,
c'est la meilleure.
Bah, concernant les commissions, puisque Uber perçoit jusqu'à 25% du montant de chaque course, donc c'est énorme.
Ouais.
En revanche, point positif pour Uber, et donc pas pour Itch. La société Uber est l'une des rares à proposer une assurance gratuite à ses chauffeurs en cas d'accident. Pour votre livraison de repas, vous allez être tenté de faire appel à Just Eats.
Just Eats,
bon. Qui a embauché beaucoup de livreurs en CDI. Ils sont donc payés à l'heure et non à la course. Deliveroo.
Pareil,
okay, et le mauvais élève, les livreurs doivent s'acheter leur propre matériel, c'est n'importe quoi. En revanche, la flexibilité de Deliveroo est tout indiquée pour celles et ceux qui cherchent seulement un petit boulot en plus, puisqu'ils sont rémunérés beaucoup plus vite. Enfin, et je terminerai là, les petits nouveaux sont les livreurs de courses dans les centres des grandes villes. On manque encore un petit peu de recul, mais sachez que ceux qui s'en sortent le mieux sont Getir, Flink et Cajou, qui ont salarié tous leurs travailleurs. Le palmarès des plateformes numériques dans Le Parisien, aujourd'hui en France, avec la bonne orthographe. N'hésitez pas à lire cet article extrêmement intéressant.
En tout cas, il y a de plus en plus de plateformes qui reviennent au modèle initial, c'est-à-dire de salarier leurs livreurs, parce qu'ils se rendent compte finalement qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver des candidats ils sont en candidat libre, enfin, c'est-à-dire en indépendant. Mm-hmm. Merci beaucoup, Omblin. C'était très intéressant.
Avec plaisir, vous pensez.
Avec la bonne
orthographe.
Prononciation.
E-Tech.
E-Tech.
Ouais.
Martin, à vous.
Pardon.
Direction le Venezuela ce matin, et je vous présente un nouveau super-héros. Son nom, Super Bigoté, Super Moustache en VF. Alors avec sa cape bleue, hein, son collant rouge, son bras bionique, ce moustachu grand et musclé est la star du nouveau dessin animé de la télévision publique vénézuélienne. Grand, musclé, moustachu, ça ne vous rappelle pas quelqu'un, Omblin, Julien?
Grand, musclé, moustachu? Ah caramba, je sais pas.
Non. Bah, Super non, Moustache sèche. Ressemble à s'y méprendre à Nicolas Maduro, le président Venezuela.
Mais bien sûr.
Et son ennemi,
pas, lui,
le méchant, donc, eh bien, il ressemble lui beaucoup à Donald Trump. Il a une grande mèche blonde, travaille dans un bureau ovale où flotte le drapeau américain. Et il est même manipulé par les Illuminati. Mais bien sûr, n'y voyez pas là un outil de propagande. Je plaisante, évidemment. Le premier épisode diffusé au début du mois s'inspire d'ailleurs d'une vraie crise entre Washington et Caracas. En 2019, une immense panne électrique frappe le Venezuela. Immédiatement, le gouvernement accuse les États-Unis d'avoir orchestré cette panne. Et puis le nom de Super Moustache, eh bien, il a été revendiqué par Maduro lui-même. C'était lors d'une conférence de presse en 2019. Écoutez.
Je ne suis pas Superman. Je suis Super Moustache. Je les bouge et un gouvernement tombe.
Alors on le voit sur la vidéo, ajouter ses grandes moustaches. Un dessin animé pour servir la propagande d'un gouvernement autoritaire. Rien de nouveau sous le soleil, hein, selon le sociologue de l'université Tulane, interrogé par le Washington Post. Selon lui, l'objectif du programme est de présenter une lecture du désastre vénézuélien où la population est la victime, les États-Unis sont les méchants et Maduro le sauveur, évidemment. Sauf que les Vénézuéliens ne sont pas tous dupes, ils ont déjà trouvé un moyen de renverser Super Moustache, la crypto-révocationnite, double référence hein, d'abord à la kryptonite fatale à Superman, mais aussi au processus de révocation que pourrait lancer l'opposition vénézuélienne l'année prochaine. Super Moustache, le super-héros madouriste de la télévision vénézuélienne, c'est à lire sur le site du Courrier International.
Ça s'invente pas quand même.
Super Moustache, super ça fait moustache. Rêver comme super-héros. Ouais.
En tout cas, j'ai rien de regarder, effectivement, il est assez ressemblant.
Hein. Ouais,
merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article des Échos qui, je dois l'avouer, m'a quelque peu laissé pensif, pour ne pas dire effrayé. Il y a quelques semaines, je vous parlais ici même de ces marques de luxe comme Balenciaga qui passent des accords avec le jeu Fortnite. Est-ce que vous vous en souvenez ?
Oui, bien sûr.
Accords qui permettent aux joueurs d'acheter des vêtements numériques griffés Balenciaga pour leurs avatars. On est là dans les prémices du Metaverse, ce monde numérique parallèle qui est en train de développer Meta, le nouveau nom de Facebook. Mais les géants de la technologie n'ont pas le monopole du Metaverse et de nombreuses start-up n'ont pas attendu Mark Zuckerberg pour investir ce nouvel Eldorado pixelisé. C'est le cas d'Artefact, une jeune entreprise dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Et pourtant, c'est le Nike du Metaverse, l'une des toutes premières marques de mode exclusivement digitale. Autrement dit, les articles de prêt-à-porter qu'elle conçoit, principalement des baskets, sont uniquement virtuels. Elles sont associées à un NFT, un jeton numérique numéroté et traçable afin de préserver leur rareté.
Une question toute simple, Julien, ça sert à quoi d'acheter des baskets virtuelles ?
À on peut pas marcher avec votre à habiller votre avatar dans les quelques plateformes de métaverse qui existent déjà ou dans des jeux vidéo partenaires. L'idée étant que chacun d'entre nous ait à terme un dressing numérique en plus de celui qu'on a déjà chez soi. Alors je comprends parfaitement Omblin et je dirais même que je partage ce que vous ressentez, ce sentiment d'être totalement dépassé par ces univers virtuels en formation. Pour simplifier, dites-vous que c'est la nouvelle conquête de l'Ouest. Il n'y a plus de continent à découvrir et à exploiter sur cette planète, alors on en crée de toutes pièces. Et cette conquête de l'Ouest numérique est en train de se transformer en ruée vers l'or. Pour en revenir à notre marque de mode numérique, elle a vendu en février dernier 600 paires de baskets virtuelles. Résultat, elles se sont toutes arrachées en seulement 7 minutes pour un total de 3 millions de dollars. Ça fait 5 000 $ en moyenne la paire. Un engouement qui a poussé Artefact à élargir sa gamme en créant cette fois non plus des vêtements numériques, mais 20 000 avatars clés en main, rebelote. L'ensemble est parti en quelques clics pour 80 millions de dollars. Voilà ce qui a convaincu une célèbre marque de baskets, bien réelle cette fois, de mettre la main au portefeuille. Nike vient en effet de racheter Artefact, le Nike du Metaverse. La boucle est bouclée. Parallèlement, la marque à la virgule vient également d'acquérir des parcelles de terrain numérique sur une plateforme du Metaverse. Objectif, y créer son Nike Land, un magasin digital que l'on pourra bientôt arpenter avec notre avatar pour y acheter la toute dernière paire de baskets virtuelles. Est-ce que vous suivez ?
Hélas, oui.
Parce que ce n'est pas fini. Artefact, notre marque de baskets en pixels, compte utiliser son rachat avec Nike pour fabriquer aussi désormais de vraies baskets. Quand le métaverse, le monde virtuel, investit le monde réel, c'est le monde à l'envers.
Voilà, donc concernant les relations réelles, tout ça, c'est compliqué. Bon. Merci beaucoup, c'est le monde de demain donc. Hein. Merci
oui,
Julien. Oui, voilà, pour le pressing, c'est terminé. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20, le journal permanent, Alban Le Prince.
À 10 jours de Noël, les 5-11 ans considérés comme à risque peuvent recevoir un vaccin anti-Covid à partir d'aujourd'hui. Les plus de 65 ans doivent aussi avoir reçu une dose de rappel pour conserver leur passe sanitaire. Marc de Cacré-Valmeignier, leader présumé du groupuscule d'ultra-droite, les Zouaves, Paris interpellé hier, soupçonné d'être impliqué dans les violences commises lors du meeting d'Éric Zemmour il y a 10 jours à Villepinte. Garde à vue pour Alexandre Benalla et son épouse, le couple est interrogé, accusé de corruption dans le cadre d'une enquête sur au moins 2 contrats passés avec des oligarques russes.
Europe 1. BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Initiative en France.
Bonjour Tiphaine Potiron.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous depuis la jolie ville de Nantes où vous avez lancé il y a quelques semaines une laverie pas comme les autres. Alors bien sûr, on peut y laver son linge, mais pas uniquement. Expliquez-nous.
Exactement. Alors, l'objectif de ce lieu, c'était de rassembler deux activités en une, à la fois un salon de thé, restaurant du midi, combiné à une laverie avec du matériel qu'on retrouve dans des laveries classiques.
Donc, en fait, chez vous, on peut à la fois laver son linge sale, boire un café avec des amis et même déjeuner le midi, c'est ça ?
Exactement. Les deux activités peuvent se faire soit ensemble, soit séparément. Chacun, en fait, vient y faire finalement ce que lui souhaite et en fonction du moment de la journée, ce qu'il souhaite venir y faire ici.
Est-ce que les salles sont indépendantes ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on entend le ronron des machines pendant qu'on mange ?
Non, alors on n'entend pas le ronron des machines. Le lieu, en fait, finalement, est divisé effectivement en deux parties. La partie laverie se situe sur l'entrée du local et la partie café sur l'arrière du local. Et au milieu, finalement, la partie bar et accueil se trouve au milieu de ces deux espaces-là.
D'accord. Et le midi, c'est vous qui faites à manger ?
Oui. Tout est cuisiné sur place, tout est fait maison, avec des produits frais et principalement de saison et locaux plus possible. Et tout est cuisiné effectivement par mes soins pour le moment.
Et vous venez du milieu de la restauration ou c'est une reconversion pour vous ?
Non, alors pour moi c'est une reconversion mais qui a quand même un petit lien avec ce que j'ai fait avant. J'ai travaillé avant en marketing agroalimentaire, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'agroalimentaire. Et du coup, pour monter ce projet-là et compléter le premier bagage que j'avais, j'ai travaillé dans un restaurant de midi qui est situé à Nantes, à côté de la gare, pendant un an et demi pour à la fois apprendre les techniques, la méthode, l'organisation de ce type de journée et pouvoir me lancer, on va dire, sereinement dans cette aventure-là.
On vous sent, pardonnez-moi, mais plus passionné par la nourriture que par la lessive et on peut vous comprendre. Du coup, pourquoi avoir ouvert un café laverie et pas uniquement un café ou un restaurant tout court ?
Effectivement, on va pas se mentir, la partie nourriture m'a toujours plus attirée que la partie lessive. Après, pour le coup, moi, ce qui m'intéressait et ce qui est aujourd'hui finalement vraiment le cas, c'est de créer un lieu qui soit un peu plus qu'un restaurant, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un lieu qui regroupe plusieurs populations, plusieurs niveaux de vie, plusieurs âges. C'est vraiment très varié et c'est cette partie-là qui me plaisait. Finalement, en faire un lieu de vie complet et non pas uniquement une partie restauration ou une partie laverie.
Et vous êtes toute seule, à la fois en cuisine, au service et aussi prête à intervenir en cas de soucis sur les machines ?
Exactement, d'où la position stratégique du comptoir de l'accueil et de l'encaissement en plein milieu du lieu. Pour pouvoir avoir un œil un peu partout. Pour l'instant, je suis toute seule parce que le démarrage, pour me caler et puis faire monter le lieu en puissance au démarrage, je l'ai fait seule. Mais je suis en train de regarder là pour recruter un alternant sur la partie notamment cuisine et service pour m'accompagner sur cette partie-là.
Et ce démarrage, justement, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez trouvé votre public ?
Eh bien, très bien. Je suis très agréablement surprise parce que ça a finalement... très bien pris assez rapidement sur la partie du midi, notamment pour ceux qui viennent pas forcément laver leur linge. Donc voilà, à la fois les habitants du quartier, mais aussi les salariés de la zone. La partie laverie était, elle, on va dire, un peu plus attendue parce que je suis située à proximité d'une résidence étudiante qui, eux, n'avaient pas de machine. Donc pour le coup, la partie laverie a vite rencontré son public. Et la partie restauration, l'enjeu était un peu plus fort, justement. Et pour le coup, ça a très bien fait son chemin et ça continue de se développer chaque jour. Donc... le démarrage est très bon par rapport à ce que j'avais estimé, on va dire.
Eh bien, tant mieux pour vous. On est ravis pour vous. Est-ce que ça n'a pas posé de problème dans la conception des lieux, le mélange entre lessive, détergent et nourriture ?
C'était l'une de mes... si on peut dire l'une de mes craintes, mais finalement non, ça pose pas de souci. Le bâtiment en fait est grand, enfin le local est très grand, ça fait 120 mètres carrés, donc avec une certaine hauteur sous plafond, donc du coup finalement l'air est recyclé de manière régulière et non ça pose pas de souci. Personne me l'a jamais fait remonter. Et les deux parties étant quand même séparées, pour le coup, les gens qui mangent sur la partie café ne sont pas directement à côté des machines non plus. Donc ça doit aider un peu à la séparation quand même des odeurs et des lieux.
Oui, vous pouvez séparer, ce qui fait que la partie laverie, la partie lavomatique peut être ouverte 7 jours sur 7 ?
Oui, exactement, ouais. La partie laverie, elle est ouverte de 8h à 20h30 tous les jours. Et sur la partie petite restauration, cantine, salon de thé, je suis ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h en continu.
Est-ce qu'il y a des clients qui utilisent la partie café comme un espace de coworking ?
Ouais, complètement, ça commence à se faire et c'est quelque chose en plus que j'incite assez facilement parce que j'ai la chance d'avoir un espace qui est assez grand. Il y a une trentaine de places assises. Ouais, la taille de l'espace me permet effectivement d'inciter les gens qui souhaitent venir juste prendre un café et travailler pendant plusieurs heures ou même lire un livre, ça arrive, ou regarder un film sur un ordinateur. Tout est possible, il y a aucun... Enfin voilà, le but c'est effectivement que chacun s'approprie les lieux et puisse... venir y faire l'activité qu'il y souhaite, mais c'est complètement possible. Ouais.
En fait, c'est un prolongement de son propre appartement. Merci beaucoup, Tiphaine Potiron, de nous avoir présenté votre café Laverie. Mousse, c'est son nom. On vous trouve au 44 boulevard Gustave Roch à Nantes. On vous souhaite de très belles fêtes.
Merci beaucoup également.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28 sur Europe 1, merci de nous confier votre réveil musical, donc informé avec le journal qui arrive dans une minute, et culturel avec l'actu cinéma dans 20 minutes.
Laurie Choleva a notamment choisi la plus grosse sortie de l'année pour les studios Marvel, le nouveau Spider-Man.
On va se pencher dans un instant sur la météo du jour avec Anissa Haddadi, mais juste après, on va prendre un peu de recul et regarder l'ensemble de l'année.
Oui, on dresse un bilan climatologique. Ce matin, la pluviométrie, l'ensoleillement, les températures. Si 2020 a été l'année la plus chaude en France et en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire de 2021, une année qui reste chaude malgré notre ressenti? On sera dans un quart d'heure avec un climatologue de Météo France.
Mais d'abord, comme promis, le coup d'œil par la fenêtre et il y a beaucoup de brouillard, Anissa.
Il y a beaucoup de brouillard, il va falloir être très prudent sur les routes. En fait, on a toujours cet anticyclone au-dessus de la France et qui dit anticyclone en hiver dit humidité plaquée au sol et donc du coup beaucoup de brouillard. Attention, dans les vallées du centre-est, les brouillards sont par endroits givrants avec les températures négatives. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les endroits où il n'y a pas de brouillard ce matin, ça ira plus vite.
D'accord.
Sur les Alpes, les Pyrénées, au bord de la Méditerranée, dans le sud de l'Auvergne et en Corse. Si vous êtes là, vous êtes tranquille, partout ailleurs, c'est couvert, c'est brumeux et en plus de ça, cet après-midi, le ciel va rester très gris sur toute la moitié nord du pays jusqu'au Lyonnais et les brouillards vont rester très nombreux, même cet après-midi sur la moitié nord. Sur la moitié sud, là, le soleil se lève. Attention, on a des brouillards qui restent accrochés sur la vallée de la Garonne. Moins 3 degrés à Grenoble, moins 2 à Rodez, moins 1 à Clermont-Ferrand et Belfort, 0 à Lyon, 2 à Marseille, 10 à Dunkerque ce matin. Et cet après-midi, on aura 3 degrés à Lons-le-Saunier, 9 à Paris et 17 pour Bastia.
Il fait doux donc. Merci beaucoup.
Il fait très doux. On est 2 à 3 degrés au-dessus des normales.
Hein. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Le ministère de l'Intérieur va fermer la grande mosquée de Beauvais. Europe 1 a eu accès au verbatim des prêches de l'un des imams. Plusieurs d'entre eux incitent à la haine et au djihad. L'embarras de l'Église catholique face aux candidats à l'élection présidentielle. La conférence des évêques de France prépare un document pour éclairer les fidèles. Et puis Marcel Proust s'expose au musée Carnavalet à Paris. L'occasion de redécouvrir le lien qu'entretenait l'écrivain avec la capitale.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La procédure est enclenchée, la grande mosquée de Beauvais va fermer pour 6 mois. L'ordre vient du ministère de l'Intérieur. La préfecture de l'Oise aurait d'ailleurs notifié la décision vendredi dernier. Les services de renseignement se sont notamment intéressés aux prêches d'un imam. Éloge du djihad, critique des chrétiens, des juifs et des homosexuels. Europe 1 vous le révélait hier, nous avons eu accès à leur verbatim et ils ne laissent pas de place au doute. Thibaut Hue.
Les documents auxquels nous avons eu accès ne laissent aucun doute sur les convictions de l'imam. Parmi les propos recueillis par les policiers, ce récit d'une bataille du prophète Mahomet. L'homme évoque les combattants comme des héros, je cite. Eux, c'était pas des gamins, c'était des hommes. Leur souci, c'était de protéger la religion. Lors de leur enquête, les services de renseignement observent ce même imam dans d'autres circonstances, en train de présenter le djihad comme un devoir, y compris pour les femmes. Il explique « elles n'ont pas à prendre les armes, elles doivent défendre parce que oui, c'est un devoir ». Enfin, les fonctionnaires verront également l'individu en train de prêcher face à un enfant en mai dernier. Il lui tenait ses propos. « T'as peur de quoi en fait? Si tu fais ce qu'Allah t'a demandé, t'auras pas peur de mourir. C'est ça qui fait peur aux ennemis de l'islam ». La mosquée devrait donc rester fermée 6 mois par décision préfectorale. Par le biais de son avocat, l'imam déclare que ses propos sont sortis de leur contexte. L'association qui gère le lieu de culte a 10 jours pour déposer un recours auprès de la préfecture de l'Oise.
Thibaut Hue.
La crise sanitaire, la vaccination pour la troisième dose progresse, le nombre de contaminations également.
Plus de 15 millions de Français ont reçu leur troisième injection. C'est une course contre la montre qui s'engage alors que le nombre de contaminations s'envole. Plus de 63 000 nouveaux cas enregistrés hier face à la poussée du variant Omicron en Europe et donc en France. Les autorités sanitaires s'en remettent plus que jamais aux vaccins et aux tests. Encore faut-il que l'intendance suive. Et dans les pharmacies, on peine à absorber la demande. Reportage au CNDR.
La file d'attente qui n'en finit plus de s'étirer devant son comptoir, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, c'est désormais le quotidien de Camélia, préparatrice en pharmacie.
Entre les tests, les vaccins, il y a aussi les tests sérologiques qu'on continue à faire. On s'en sort pas. On fait appel aussi à des personnes extérieures qui viennent pour faire les tests, pour un peu nous soulager.
C'est tout juste suffisant face à l'explosion des demandes de rendez-vous de vaccination, jusqu'à 50 par jour. Et avec l'incitation des officines à ouvrir des créneaux journaux le dimanche, Laurent Alouani, pharmacien, voit ses 5 salariés arriver au bout de leurs forces.
On bosse 6 jours sur 7, là on nous demande de bosser jusqu'à fin janvier, 7 jours sur 7. On est aujourd'hui très, 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 très fatigué. On a une équipe officinale qui n'en peut plus. On est complètement submergé par le travail.
Une cadence effrénée, impossible à tenir pour ce pharmacien. À ce rythme-là, dit-il, on n'y arrivera pas.
Océane Théard.
Et les choses ne vont peut-être pas s'arranger parce qu'il faut compter avec les retardataires, ceux dont le pass sanitaire arrive à expiration aujourd'hui.
Et là, on parle, Julien, des plus de 65 ans qui n'ont toujours pas reçu leur dose de rappel. 400 000 personnes sont concernées. Il s'agit de patients dont la dernière injection remonte à plus de 7 mois.
Et il faut ajouter à ce public et aux autres ceux qui vont démarrer leur campagne vaccinale. On parle des enfants âgés de 5 à 11 ans.
Et elle débute aujourd'hui, précision qui a son importance. Seuls les enfants présentant certaines pathologies sont éligibles. Ils sont 360 000 en France. Et là aussi, les choses s'avèrent compliquées. C'est le cas de Christelle, dont le fils de 6 ans souffre d'asthme chronique. Elle attendait de pouvoir le faire vacciner, mais elle craint de devoir encore attendre qu'un créneau se libère.
Ça flambe dans les écoles et le protocole dans les écoles n'a pas changé. Ça nous a réalerté sur le fait qu'effectivement, notre enfant qui est asthmatique et qui est sous traitement chronique pouvait faire une forme grave.
Votre enfant peut enfin se faire vacciner, c'est un soulagement.
On l'attend avec impatience. On ne doute pas que les choses se mettent en place, mais alors à une vitesse qui nous paraît extrêmement lente. Pour l'instant, ni les centres, ni l'ARS, ni nos médecins sont capables de nous dire quand est-ce qu'on va pouvoir prendre un rendez-vous pour notre enfant. Sur les sites de réservation de créneaux de vaccination, pour l'instant, en fait, c'est pas possible de réserver pour des doses pédiatriques. Donc on attend impatiemment.
Le témoignage de Christelle au micro de Yasmina Katou.
L'Assemblée nationale va adopter aujourd'hui le budget pour 2022, budget qui accuse un déficit de 153 milliards d'euros. Pour autant, l'INSEE se veut plutôt rassurant sur la trajectoire de l'économie française dans les 6 prochains mois.
L'Institut table sur une croissance du PIB de 0,4% au premier trimestre 2022, 0,5% au second. L'économie effacerait ainsi les traces de la crise sanitaire au printemps. Cela reste du conditionnel parce qu'il y a un nuage à l'horizon qui s'appelle l'inflation. Elle pourrait peser sur le pouvoir d'achat des ménages français, rappelle l'INSEE. Exemple avec la hausse des prix de l'énergie. En octobre, elle a engendré un surcoût moyen de 30 euros par ménage.
5 heures passées de 35 minutes sur Europe. On en vient à la campagne pour la présidentielle. L'Église a pour habitude de rester silencieuse et de ne pas donner de consignes de vote. Cela n'empêche pas un certain embarras.
Et quelle sera la couleur du bulletin que les catholiques glisseront dans l'urne le 10 avril, jour du premier tour de la présidentielle? Question qui restera sans réponse. Le vote est en secret. Cela n'empêche pas la conférence des évêques de France de vouloir se positionner. Elle va publier un document en janvier prochain. Pas de consignes bien sûr, mais des éléments de réflexion. Et cette année, eh bien cela relève de l'exercice d'équilibriste, Virginie Riva.
Oui, le texte doit nécessairement être très prudent. Chaque mot sera pesé. On n'est pas là ni pour soutenir, ni pour s'opposer, nous glissons à la conférence des évêques de France. Mais que faire face à un Éric Zemmour qui, dans son clip de campagne, fustige les autorités religieuses tout en se revendiquant de l'héritage chrétien? Héritage revendiqué également par Valérie Pécresse, qui avait pris position à l'époque contre le mariage pour tous, comme l'Église, alors même que les liens avec Emmanuel Macron ne sont pas si mauvais. Le président qui a une certaine proximité avec le pape François, même s'il est aussi celui qui a fait voter la PMA pour toutes. En 2017 déjà, l'Église avait fait preuve d'une très grande prudence en ne prenant pas parti dans le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, contrairement à sa tradition critique envers l'extrême droite depuis les années 90. L'idée, nous dit-on aujourd'hui, c'est de rappeler les fondamentaux de l'Église, qu'on appelle la doctrine sociale, sur l'accueil des migrants, la valeur travail. L'Église qui rappellera aussi le devoir pour tout catholique d'aller voter.
Virginie Riva. Et puis lui n'est pas encore officiellement candidat. Emmanuel Macron sera sur TF1 ce soir à 21h pour défendre le bilan de son quinquennat.
Lui, c'est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Marcel Proust a les honneurs d'une exposition en ce moment à Paris.
On célébrera le centenaire de sa mort l'année prochaine. Le musée Carnavalet propose de découvrir une autre facette de l'écrivain. Les amoureux de À la recherche du temps perdu vont pouvoir plonger dans l'univers parisien de Marcel Proust. Et l'un des joyaux de cette exposition, c'est un portrait de l'écrivain, un tableau peint, le seul qui existe. Son arrivée au musée a constitué en soi un petit événement. Marie Gicquel y a assisté. Reportage.
Dans la cour du musée Carnavalet, toute l'équipe de l'exposition se presse autour d'un camion. Marcel Proust est arrivé, ou plutôt le seul portrait de l'écrivain qui existe en peinture. Proust y apparaît stoïque, une fleur blanche sur sa veste, prêt à courir les soirées mondaines de Paris. Il n'a que 21 ans lorsque le peintre Jacques-Émile Blanche l'immortalise. Anne Lorsol, l'une des commissaires de l'exposition.
Il écrit des chroniques pour le Figaro sous différentes
pseudonyme, des chroniques de soirées mondaines. Il reçoit, il sort beaucoup. Et donc ce portrait est une forme d'image de ce jeune homme du monde.
Prêté par le musée d'Orsay, la toile est livrée par Thomas, employé d'une société de transport d'œuvres d'art.
Est-ce que vous êtes ému quand vous ouvrez les caisses ?
Ouais, c'est toujours une sorte de découverte.
Jamais la pression ?
Faut jamais le dire. Enfin, faut jamais le faire paraître.
Et toujours les gants ?
Toujours les gants, professionnels.
Ça ne vous est jamais arrivé de faire tomber un tableau ?
Ah non, jamais.
Le portrait, désormais accroché, fait face à une autre image de l'écrivain, un cliché de Man Ray, Proust sur son lit de mort, la même où il avait rédigé une partie de La recherche du temps perdu.
Marie Gicquel, Marcel Proust, un roman parisien au musée Carnaval et à Paris à partir de demain et jusqu'au dimanche 10 avril 2022. Et puis un mot du championnat du monde de handball féminin. Les Françaises affrontent la Suède à 20h30 ce soir en quart de finale.
Allez les Bleus, merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction Vincennes pour ce Quintet réservé exclusivement aux juments âgées de 4 ans. Et parmi les 14 partantes, il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 14, Urella, idéalement engagé à la limite de la qualification et qui a été préparé avec soin et minutie pour cet objectif. On lui opposera les numéros 12, Alicia Bella, qui vient de se balader le 9 décembre à Vincennes sur un tracé similaire à celui qu'elle empruntera cet après-midi. 11, Elena Barroso, très compétitive ici pour les places à l'issue d'un parcours caché. Et 5, Haines Kaluma, visiblement au mieux comme le prouve sa victoire, obtenue le 7 décembre à Vincennes et qui, en dépit d'une position plus relevée, n'est pas incapable de confirmer. Enfin, les numéros 6, Anna, 8, High Energy, 1, Uci Rainbow et 7, Houle de Rivière compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 12, 11, 5, 6, 8, As et 7.
Et ces pronostics sont à retrouver sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est l'un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières années, la Dépakine. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Sanofi va-t-il finir par devoir indemniser les victimes ? En tout cas, la pression monte sur le laboratoire ces derniers jours. La lanceuse d'alerte au cœur des révélations sur les dangers de ce traitement exige que Sanofi paye.
Une décision du tribunal judiciaire de Paris doit d'ailleurs intervenir dans les tout prochains jours avec en toile de fond toujours la même question. Sanofi est-il responsable ? Retour avec vous Pauline sur cette affaire qui éclate le 23 février 2016.
À Paris, l'inspection générale des affaires sociales tient une conférence de presse. Au cœur de ces révélations, une molécule, le valproate de sodium.
Un médicament a causé au moins 450 malformations congénitales à la naissance. Ce médicament, c'est un antiépileptique.
La Dépakine, les inspecteurs sont formels, le risque est réel pour le fœtus. Malformations, troubles neurologiques, autisme. Ce jour-là, Marine Martin, une femme qui se bat depuis des années, se présente aux journalistes.
Moi, je suis épileptique depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours pris de la Dépakine. Quand j'ai souhaité fonder une famille, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de soucis, que je pouvais prendre mon médicament pendant la grossesse et qu'au contraire, il fallait que je le conserve. Quand j'ai découvert que les malformations qu'avait mon fils et les troubles neurocomportementaux étaient dus aux médicaments, j'ai été révoltée et en colère. Pourquoi je n'ai pas été prévenue ?
C'est elle qui a lancé l'alerte en 2011. Marine Martin le dit, le répète, les risques de la Dépakine sur les femmes enceintes étaient connus dès les années 70. L'inspection générale des affaires sociales rejoint en partie son diagnostic. Il y a eu défaut d'information. 40 années ont passé sans que Sanofi, le ministère de la Santé ou encore l'agence de sécurité du médicament ne réagissent.
Toute la chaîne de pharmacovigilance est mise en cause, Pauline.
Et c'est là que l'affaire tourne au scandale. Irène Frachon, la pneumologue à l'origine des révélations sur le Mediator, dénonce sur Europe 1.
Personne n'a informé pendant des dizaines d'années ces femmes. Et aujourd'hui, ce sont ces femmes qui font émerger cette alerte. Et donc, c'est le monde à l'envers face à une terrible négligence.
14 322 femmes enceintes ont été victimes entre 2007 et 2014. 2007, c'est pourtant l'année où le Vidal, la Bible du médicament, indique que la Dépakine est dangereuse lors d'une grossesse. L'Agence nationale de sécurité du médicament fait son mea culpa et promet aux familles la recherche de la vérité.
Vérité en partie détenue donc par le laboratoire qui produit la Dépakine, le laboratoire Sanofi, Pauline.
En pole position sur le banc des accusés, dénonce la lanceuse d'alerte Marine Martin.
Un producteur est responsable de son produit, il connaît son produit, il connaissait ses effets tératogènes et il les a de manière délibérée cachés dans la notice à destination des patients.
Mais le laboratoire, qui clame toujours avoir fait preuve d'une totale transparence, refuse d'indemniser les familles, au grand dam de leur avocat, maître Charles-Joseph Houdin.
Sanofi est aujourd'hui dans une position de déni de responsabilité. Vous avez ces enfants qui sont malades. Pour payer les aides scolaires, pour prendre en charge les aides médicales, les aides paramédicales, l'urgence c'est maintenant.
Au-delà des procédures administratives, le groupe Sanofi est aujourd'hui poursuivi au pénal pour blessure et homicide involontaire.
Merci beaucoup Pauline Jacquot. C'était le jour où... Il est 5h43, dans un instant on va se pencher sur le bilan météo de l'année 2021.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon début de matinée avec nous. Il est 5h44, l'heure cette saison de faire les premiers bilans de l'année. On s'intéresse ce matin au ciel. Quel bilan climatologique tirer pour cette année 2021? On voit cela, Omblin, avec Mathieu Sorel, climatologue à Météo France.
Bonjour Mathieu Sorel.
Bonjour.
Température, pluviométrie et ensoleillement, à quoi a ressemblé le climat cette année? Si 2020 est sur le podium des années les plus chaudes en France, où se situe 2021?
Effectivement, 2020 est même l'année la plus chaude jamais observée en France. 2021, elle, se classera au 21e rang des années les plus chaudes. Depuis 1900, on va terminer avec un excédent thermique, c'est-à-dire une anomalie de température positive de 0,2 degrés par rapport au normal 1981-2010. Donc concrètement, on a alterné des périodes très chaudes, notamment les mois de février, les mois de juin et puis les mois de septembre, avec des périodes plus fraîches qui ont un petit peu contrebalancé cet excédent thermique. Donc on peut citer notamment les mois d'avril, les mois de mai, les mois d'août et puis les mois de novembre qui ont été un petit peu plus frais de la normale. Et au final, donc on va terminer avec une anomalie positive sur l'ensemble de l'année, donc de 0,2 degrés par rapport au normal 81-2010.
Vous venez de le préciser, si on fait une généralité, la fraîcheur a dominé au printemps. On a eu ce sentiment aussi que l'été était plutôt inhabituel, avec une impression de fraîcheur, d'humidité. Mais avec plusieurs mois de recul, ce que vous dites, c'est que même si on a eu ce sentiment de fraîcheur, eh bien au final, quand on regarde toute l'année, c'est pas le cas.
Exactement. Disons que les périodes chaudes ont en fait été extrêmement chaudes et les périodes fraîches ont été peu fraîches. Et donc en fait, quand on fait l'agglomération de tout ça, on se rend compte qu'on finit quand même avec un excédent thermique. Et on peut aussi s'en rendre compte à travers le nombre de records qu'on a battus au cours de cette année 2021. Mmh. On a battu 831 records de chaud contre seulement 332 records de froid. Donc vous voyez qu'on a un ratio de 2,5 entre le nombre de records de chaud battus et le nombre de records de froid battus. Donc on voit bien quand même que c'est le chaud qui l'a emporté. Le chaud a été beaucoup plus chaud que le froid n'a été froid. Et donc on voit bien aussi à travers cette statistique de records qu'on s'inscrit toujours dans une tendance de changement climatique, puisque les records de chaud sont bien plus nombreux que les records de froid.
Vous les avez parlé de records de température. On garde tous en tête ces violents incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares sur le pourtour méditerranéen, l'Italie, la Grèce, l'Algérie, en France à la fin du mois d'août. Plus de 7000 hectares de forêts, de vignes, de garrigues dans le massif des morts ont été détruits. On doit se préparer à connaître des épisodes de chaleur si intenses avec ces risques d'incendie accrus.
Effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on prévoit pour la suite, pour les prochaines années, les prochaines décennies, donc un risque d'incendie plus important autour du pourtour méditerranéen, mais pas que. On voit que ce risque d'incendie va malheureusement remonter en latitude, et donc des régions qui sont peu habituées aux feux de forêt vont malheureusement les connaître dans un futur parfois assez proche. Donc on peut citer le centre du pays, mais aussi, pourquoi pas, les régions au nord de la Seine. Donc c'est quelque chose, effectivement, qu'on voit très bien venir dans nos simulations climatiques pour les prochaines années. Ouais.
Et puis en face, on a eu la ville d'Agen qui a été noyée sous les eaux, un déluge spectaculaire en septembre. On va devoir également s'attendre à ces quantités d'eau exceptionnelles avec ce dérèglement climatique,
oui,
que vous observez.
Malheureusement, effectivement, on peut s'attendre à des épisodes intenses de fortes précipitations. Vous l'avez mentionné, l'épisode d'Agen qui a été absolument exceptionnel de par son intensité. Agen a essuyé des lames d'eau très importantes avec des cumuls dépassant 100 mm en un peu plus d'une heure. Donc c'est du jamais vu pour cette ville. On peut citer aussi d'autres orages qui ont donné des cumuls de pluie très importants dans des durées très courtes. Ça a été le cas à plusieurs reprises à Reims cette année. ça a été le cas à Paris aussi, hein, on a eu suite de violents orages. À Marseille aussi, on a eu un épisode très orageux au mois d'octobre dernier. Donc effectivement, c'est des choses qu'on observe de plus en plus et qui malheureusement devraient s'intensifier, là encore, dans ce contexte de changement climatique.
Alors, on est en fin d'année, on vient de faire avec vous le bilan. Est-ce qu'on peut essayer de se projeter quelques tendances peut-être pour l'hiver qui arrive pour 2022 du côté de Météo France ?
Alors, pour l'hiver prochain, il n'y a pas de scénario qui se dégage en termes de prévisions saisonnières. Hein. Cela veut dire qu'il y a pas mal d'incertitudes sur les 3 mois à venir. Est-ce qu'on va être plutôt chaud ou plutôt froid par rapport à la normale ? C'est quelque chose qu'on a du mal à dire pour ces 3 prochains mois. Donc, pour l'instant, on ne s'engage pas trop là-dessus. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que la semaine que nous allons connaître s'annonce anticyclonique, donc un temps sec pour la France avec des gelées et des températures assez fraîches en plaine et certainement beaucoup de grisailles dans bon nombre de régions. En revanche, en montagne, ce sera du grand soleil et une très grande douceur pour la semaine à venir. Et il y aurait un petit signal froid qui pourrait donc venir à l'issue des fêtes de Noël. Donc pour l'instant, nos prochaines modélisations montrent qu'on pourrait avoir une petite arrivée d'air froid, voilà, généralisée sur le pays après Noël. Donc tout ça restera bien sûr à confirmer.
Bien sûr. Merci beaucoup Mathieu Sorel d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Vous êtes climatologue à Météo France et vous présentez aujourd'hui le bilan climatologique de l'année 2021. Merci.
Merci à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi, le journal permanent Alban Le Prince.
63 000 cas de Covid détectés en 24 heures en France et à partir d'aujourd'hui, les 5-11 ans dits à risque peuvent se faire vacciner. Pour les plus de 65 ans, pas de rappel et le pass sanitaire est désactivé. Propos contre les chrétiens, homosexuels, juifs, apologie du djihad, la mosquée de Beauvais est fermée pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois. Elle attaque le modèle républicain et la France, selon Gérald de Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Gaz, carburant, électricité, en moyenne, la hausse des coûts de l'énergie a alourdi la facture de 30 euros en novembre par rapport à la même période en 2019. Résultat d'une étude de l'INSEE.
On parle cinéma comme chaque mercredi dans votre prescription culture avec Laurie Choleva.
Bonjour Laurie.
Salut Ambline, salut Julien, bonjour à vous.
Laurie, cette semaine, c'est le retour d'un super-héros culte.
Et oui, effectivement, et les fans l'attendaient avec impatience, c'est le nouveau Marvel, Spider-Man No Way Home, qui sort aujourd'hui en salle. Alors dans ce troisième film, l'identité du jeune Peter Parker a été révélée au monde entier, et c'est un véritable cauchemar, il va donc tout tenter pour retrouver son anonymat.
Quand Mysterio a révélé mon identité, ça a foutu un gros bordel dans ma vie. Je me demandais si vous pouviez faire un truc pour annuler tout ça.
Bientôt, le monde entier aura oublié que Peter Parker est Spider-Man.
Quoi ? Le monde entier ? Oh, et ma tante May ?
Stop ! Tais-toi !
Il s'est passé quoi, là ?
Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Veille à faire les bons choix, Parker.
C'est sans aucun doute la plus grosse sortie des studios Marvel de l'année. Il faut savoir qu'il y a un premier trailer qui est sorti en août dernier qui a battu en 24 heures des records de vues. Et dernièrement, un autre trailer a été dévoilé dans lequel on voit le retour de méchants emblématiques des précédents Spider-Man. Et il a une nouvelle fois battu des records de vues. Donc les fans en ébullition, je peux vous dire qu'ils vont être ravis.
Oui, on vous croit. Laurie, c'est aussi aujourd'hui la sortie d'une comédie forcément sympa puisqu'il y a Josiane Balasko dedans. Et oui.
Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de la retrouver. En plus, là, elle se partage l'affiche avec son complice Didier Bourdon dans Mes très chers enfants. C'est la nouvelle comédie d'Alexandra Leclerc. Alors, c'est l'histoire de Chantal et Christian qui sont malheureux car depuis que leurs enfants ont quitté le nid, ils ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Ils ne viennent plus leur rendre visite. Et là, cerise sur le gâteau, ils viennent d'apprendre qu'ils ne viendront pas passer le réveillon de Noël avec eux. Donc, ils sont désespérés et ils décident de leur faire croire qu'ils ont gagné au loto pour les inciter à s'intéresser davantage à leurs parents.
Nos enfants ne nous calculent plus. On va les faire nous calculer.
Allez, c'est parti.
Coucou chérie, on a gagné avec papa beaucoup d'argent.
À toutes, bisous bisous.
Dites-nous combien ?
Oui, allez, combien ?
8.
18.
Quoi ?
10 millions.
Je voudrais rhabiller ma fille pour l'hiver.
Ah, ma flûte !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Mais je trouve pas mon porte-monnaie.
Mais non.
Et nos enfants
qui seront là pour le réveillon.
Bah, c'est sûr que 18 millions, quand même, ça fait rêver. Alors, il faut savoir que Josiane Balasko donne la réplique à sa propre fille, Marie-Lou Berry, et qu'elle en est très contente.
J'ai pris du plaisir normalement. C'est-à-dire que Marie-Lou, c'est une actrice pour moi. Par le fait qu'elle m'appelle maman, c'était une bonne actrice. Bon, oui. L'avantage, c'est que c'est une bonne actrice.
Une bonne actrice, un bon casting, et je peux vous dire que ça vaut le détour.
Ça vaut le détour, mes très chers enfants, avec notamment Josiane Balasko et le nouveau Spider-Man. C'est au cinéma aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurie Cholet-Va. Excellent mercredi matin sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, nous sommes le mercredi 15 décembre. Dans un instant sur Europe 1, la météo, le journal et une surprise.
La surprise du chef de l'État en l'occurrence, qui va s'exprimer ce soir à la télévision. Une interview sur TF1 et LCI enregistrée dimanche, que l'on n'avait pas vu venir, il faut bien le dire. Il faut dire qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup exprimé ces derniers temps, sans jamais toutefois se déclarer ouvertement candidat à sa réélection. Est-ce pour ce soir? A priori non, il va falloir encore attendre. On nous dit que le président va revenir sur les crises qu'il a traversées à l'Élysée, solder le bilan du quinquennat pour mieux esquisser le prochain. Est-ce la bonne tactique à seulement 4 mois du premier tour? On en parle dans une dizaine de minutes avec le politologue Jean-Christophe Gallien. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Avec James Brown, il fait partie des musiciens les plus repris de l'histoire de la musique. Le père du funk psychédélique George Clinton avec son groupe Parliament va inspirer des générations de DJ et de rappeurs. Rendez-vous dans 20 minutes.
La météo, Anissa Haddadi, et ce 15 décembre est une nouvelle fois bien nuageux.
Et oui, très nuageux. On a des conditions similaires à ces derniers jours. On prend les mêmes, on recommence. On a beaucoup de brouillard sur quasiment toutes les régions, sauf le pourtour méditerranéen, la Corse et les montagnes. Sur les Pyrénées et les Alpes, là, il y a zéro brouillard, c'est très dégagé. Et dès ce matin, le soleil va briller. Ce matin, sur les Hauts-de-France, on a un petit peu d'humidité, on a de la bruine. Hein. Sur les Hauts-de-France, c'est pas très agréable. Dans l'après-midi, comme ces derniers jours, le ciel va rester gris sur la moitié nord. Ah, attendez, j'ai trouvé quand même une bonne nouvelle.
Ah bon ?
Il y a des éclaircies sur la Bretagne.
Ah ça va.
Attendez, on essaye de trouver le mieux possible. Donc c'est gris partout, sauf sur la Bretagne où on voit des éclaircies. Puis alors sur la moitié sud, c'est toujours très ensoleillé. Les températures, elles sont fraîches ce matin. On a moins 3 degrés à Grenoble, moins 1 à Besançon et Chambéry, 0 à Lyon, 2 à Toulouse, 5 à Nice, 6 à Paris et Quimper, 8 à Lille, 10 à Dunkerque. Cet après-midi, comptez 3 à 17 degrés. Allez, je vous parle un peu du week-end. Il sera très ensoleillé même au nord. Mais les températures vont chuter. Ça sera un froid sec.
On ne peut pas tout avoir. Voilà, merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le mercredi 15 décembre. Très bon réveil, il est 6h. Où va la France ? C'est le nom de l'interview réservée ce soir à Emmanuel Macron. Un entretien de 2 heures à la télévision. L'opposition dénonce une émission de campagne électorale. Plusieurs candidats ont saisi le CSA. J-2 avant les vacances de Noël et peut-être le début de la galère si vous avez prévu de partir en train. Les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève. La direction, elle, veut éviter les blocages. Oui, mais comment ? Réponse avec Maud Descamps. Et puis, c'est une photo que vous avez forcément déjà aperçue, celle de la petite Afghane aux yeux verts. Un cliché de l'américain de Steve McCurry. Une exposition lui est dédiée à Paris, une première en France, tête à tête avec Marie Jiquel à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h le journal, c'est Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. L'opposition dénonce un mélange des genres. Le en même temps d'Emmanuel Macron, chef de l'État et présumé candidat. Il sera sur TF1 ce soir. 2 heures d'interview enregistrée, baptisée « Où va la France ?». Un entretien bilan et perspective qui passe mal auprès de la concurrence. Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen... Tous ont saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une même réclamation, que le temps de parole du chef de l'État soit décompté comme celui d'un candidat. Alexandre Chauveau, à chaque élection, cette question crispe toute la sphère politique.
Oui, et pour preuve, Valérie Pécresse défendait en janvier 2012 Nicolas Sarkozy, alors candidat à sa réélection, avec exactement les mêmes arguments que la majorité aujourd'hui. 10 ans plus tard, la candidate a donc été la première à attaquer Emmanuel Macron sur le sujet. Pour autant, la requête n'a aucune chance d'aboutir selon Grégoire Végel, ancien chef de département au CSA, responsable du pluralisme et des campagnes électorales.
Donc on peut comprendre qu'il soit choqué, mais c'est la règle qui est un petit peu choquante. Et cette règle aurait pu être modifiée si par exemple le CSA avait fait comme en 2006, il avait ouvert le temps de décompte de l'élection présidentielle au mois de décembre, par exemple.
2006 a été en fait la seule année qui a fait exception à la règle. Le temps de parole du président sortant ne peut être normalement décompté comme celui d'un candidat qu'à partir du 1er janvier. Emmanuel Macron le sait et il en joue. Il va en un peu plus d'un mois réaliser sa troisième grande intervention télévisée. Le président de la République a également conscience que le jour où il sera candidat, il ne sera plus vraiment président et donc plus vulnérable, chose qu'Emmanuel Macron souhaite retarder le plus tard possible.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
À la SNCF, les discussions avec les syndicats continuent. Ils ont déposé un préavis de grève pour ce week-end crucial, le premier des vacances de Noël.
Et une sacrée pagaille en perspective sur l'axe Est et Ouest. Maud Descamps, la direction de la SNCF, veut à tout prix éviter un blocage.
En effet, les discussions ont débuté lundi soir, dès l'annonce de l'appel à la grève. Des négociations intenses et permanentes, précise-t-on dans l'entourage de la direction de la SNCF, qui veut éviter au maximum un mouvement de grève sur les axes sud-est, sud-ouest et atlantique pour le week-end de Noël. Les TER de Nouvelle-Aquitaine pourraient également être impactés. Même réaction du côté du gouvernement, où l'on souhaite minorer au maximum l'impact de cette grève pour les Français qui n'ont qu'une envie en cette fin d'année, pouvoir se retrouver en famille pour les fêtes. Les syndicats demandent une amélioration de leurs conditions de travail, notamment le manque d'effectifs. Ils réclament donc des embauches supplémentaires. Autre demande, des augmentations de salaire ainsi qu'une prime Covid de 1 000 euros pour les agents qui ont travaillé et assuré le trafic des trains, notamment pendant la première vague. La CFDT, Sudrail et l'UNSA attendent désormais un geste fort de la part de la direction de la SNCF pour lever l'appel à la mobilisation.
Une mobilisation qui commence d'ailleurs dès demain pour plusieurs lignes SNCF en Île-de-France avec un trafic très perturbé sur les lignes C, D et E du RER.
Et grève ou pas grève, en tout cas la SNCF prévoit également de renforcer le contrôle des passes sanitaires. Un train sur trois devrait être concerné.
Des contrôles pour éviter les fraudes. Près de 400 enquêtes ouvertes selon le ministère de l'Intérieur. De faux passes sanitaires pour un vrai danger, celui de se retrouver à l'hôpital. Carole Hichet est la chef du service réanimation du CHU de Nice où les fraudeurs occupent près d'un tiers des lits.
Je trouve d'abord que ce n'est pas courageux, que c'est complètement inconséquent et irresponsable parce que non seulement ils exposent le personnel soignant et puis ils sont inconséquents aussi vis-à-vis du reste de la population et c'est pas comme ça qu'on va faire diminuer l'épidémie dans les mois qui viennent. Donc moi je trouve que c'est une attitude qui est totalement irresponsable et pour tout vous dire, beaucoup de personnel soignant est très 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 en colère de cette façon de faire.
J'imagine que vous êtes aussi en colère contre ceux qui délivrent ces faux passes, quelquefois des médecins.
Évidemment, quand je sais que c'est le corps médical, ça aussi c'est encore pire. Je suis complètement navrée d'entendre ce genre de choses.
Carole Hichet, chef du service réanimation du CHU de Nice, joint par Frédéric Michel. Un pass sanitaire qui sera d'ailleurs désactivé dès aujourd'hui pour les plus de 65 ans qui n'ont pas fait leur dose de rappel.
L'épidémie qui met à l'épreuve les politiques les plus radicales en Chine, celle du zéro Covid, n'empêche pas l'apparition de nouveaux foyers de contamination.
Une menace pour la deuxième économie mondiale avec des centaines d'usines à l'arrêt, dont certaines même cotées en bourse. Les précisions de notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic.
C'est l'une des provinces les plus riches de Chine, elle représente 6% du PIB du pays, 65 millions d'habitants au sud de Shanghai et un centre économique vital avec par exemple le port de Ningbo, le cinquième plus grand port de containers du monde. Cette province du Zhejiang se trouve quasiment confinée à la suite de l'apparition de cas de Covid la semaine dernière. Plus de 50 000 personnes sont en quarantaine, 500 000 sous surveillance médicale et les autorités ont imposé la fermeture de centaines d'usines, dont plusieurs sites pétrochimiques, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales. On prévoit déjà 3 mois de retard pour certaines productions. Écoutez Zhou Weifeng, le directeur du port de Ningbo.
Nous mettons tout en œuvre pour tenter de limiter les problèmes logistiques ici sur le port et permettre aussi aux transports maritimes de fonctionner malgré cette reprise de l'épidémie.
Mais les grues sont au ralenti sur le port. Les autorités estiment que l'activité ne reprendra pas normalement ici avant le nouvel an chinois qui tombe le 1er février. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
L'Europe acte la naissance d'un champion français. Bruxelles a autorisé hier sous condition Veolia à absorber son rival historique Suez. Une opération à 13 milliards d'euros et la fin de plusieurs mois de bataille entre ces deux géants de l'eau et des déchets.
C'est une photo qui a fait la couverture des journaux du monde entier. L'Afghane aux yeux verts, une jeune femme drapée d'un vêtement rouge. Un cliché de Steve McCurry, photographe américain.
Et pour la première fois, une exposition lui est consacrée en France, au musée Mayol à Paris. 150 photos pour découvrir l'univers de Steve McCurry. Rencontre avec Marie Jiquel.
Comme Steve McCurry semble insaisissable et pressé, c'est dans un taxi parisien que nous lui avons tendu le micro.
Nous sommes dans un taxi et nous allons faire un tour de Paris.
La grandiloquence de Paris qui défile sous ses yeux clairs.
Regardez cette vue, c'est incroyable.
Détonne avec ses clichés, des scènes de désolation comme les ruines des tours jumelles à New York après l'attentat, ou des contrastes glaçants comme ces enfants qui jouent près des chars d'assaut au Liban dans les années 80.
Oui, je pense que mes photos soulèvent beaucoup de questions. Par exemple, pourquoi ce petit garçon tient un pistolet dans sa main ? Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions sur les circonstances de ma photo et pourquoi ils font ça à ce moment précis.
Steve McCurry assure ne pas être hanté par ces modèles photos. Le visiteur aura, lui, plus de mal à oublier leur regard. Mais ce photographe de l'humain tente toujours de capturer le monde, comme dans ce taxi où, smartphone à la main, il semble inspiré par une femme, la Dame de Fer.
C'est une exposition à découvrir jusqu'au 29 mai au musée Mayol à Paris, si vous êtes de passage.
Ouais, exposition à ne pas manquer. Merci beaucoup Romain Oquet, c'était le journal de 6h.
Il est 6h07 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange, on commence Martin avec le premier match coup près des handballeuses au Mondial.
Oui, les Bleus affrontent la Suède ce soir en quart de finale, invaincus depuis le début de la compétition et après un premier test très concluant contre la Russie lundi. Les championnes olympiques retrouvent une autre vieille connaissance, les Suédoises qu'elles ont affrontées deux fois à Tokyo cet été pour un nul et une victoire. Le sélectionneur Olivier Crumbles s'attend à un sacré match.
Une grosse équipe de Suède qui progresse, qu'on connaît bien. Ça passe souvent à pas grand-chose face à la Suède. Et il va falloir avoir un mental d'acier et se préparer peut-être à vivre un money time dans un match à élimination.
France-Suède, c'est à 21h ce soir. En cas de victoire, les Bleus rejoindraient le Danemark en demi-finale.
On passe au foot, Martin, et Saint-Etienne a un nouvel entraîneur.
Oui, et c'est Pascal Dupraz, un spécialiste des missions maintien. Il a été officiellement nommé hier en remplacement de Claude Puel. Rappelons que les Verts sont derniers de Ligue 1 à 4 points du premier non relégable, 3. Et puis retour sur le tirage de la Ligue des Champions. Le PSG affrontera donc le Real Madrid en 8e de finale. Un match forcément particulier pour Sergio Ramos. L'Espagnol a passé 16 ans au Real, club avec lequel il a gagné 4 Ligues des Champions. On l'écoute.
Vous connaissez l'amour et l'affection que j'ai pour le Real et ses supporters. Et ça ne changera jamais. Mais il faut regarder le présent. Pour tous les amoureux du football, c'est un très grand duel. Je dois défendre les couleurs du PSG. C'est l'équipe qui a misé sur moi.
De la NBA à présent, et un record est tombé cette nuit.
Et oui, Stephen Curry, le meneur des Golden State Warriors, est devenu le meilleur marqueur à 3 points de l'histoire. Il en a inscrit 2977, soit 4 de plus que l'ancien record détenu par Ray Allen. Les Warriors, vainqueurs des Knicks de New York, cette nuit restent leaders de la Ligue.
En bref, pour finir, Martin.
Pas de miracle pour les hockeyeurs de Rouen en Ligue des Champions, battus par les Finlandais de Tampere. Hier, ils sont éliminés. Et puis un mot de natation avec le début la nuit prochaine des championnats du monde en petit bassin à Abu Dhabi. Les Bleus voyagent légers, seulement 16 nageurs, mais avec une nouvelle génération prometteuse dans l'optique des Jeux de 2024.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous, on va s'intéresser dans un instant à l'interview d'Emmanuel Macron, diffusée ce soir à la télévision. Entretien d'un chef de l'État ou d'un candidat à 4 mois de la présidentielle, on en parle dans une minute avec le politologue Jean-Christophe Gallien. À tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité Julien est politologue et conseiller en communication.
Bonjour Jean-Christophe Gallien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors qu'Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir sur TF1 et LCI, une prise de parole enregistrée dimanche et qui prendra la forme d'une longue interview. Aucun rapport avec la campagne, nous assure l'entourage du président. On n'est bien sûr pas obligé de le croire. Emmanuel Macron, où va la France ? C'est le titre de cette émission. Jean-Christophe Gallien, la question ce matin, c'est plutôt où veut aller le chef de l'État avec cette intervention ?
Écoutez, on peut pas imaginer un seul instant qu'il soit juste un observateur de ce qui se passe en France. Il est profondément acteur puisqu'il est le président de la République, le tenant du titre de quelque chose qui va être remis en jeu, je dirais, dans 4 mois, où vous aviez un journal des sports juste avant. Et puis finalement, cette période où on sent bien que on n'est pas dans un money time, pour reprendre votre reporter tout à l'heure de la NBA, mais on est dans quelque chose qui est vraiment un moment charnière, c'est-à-dire qu'il a vu émerger quelqu'un qui, en tout cas, l'émanation d'un parti qui était éliminé jusqu'il y a 3 mois, éliminé du premier tour, et puis qui aujourd'hui, les Républicains, parce qu'il y a eu l'intrusion d'un Éric Zemmour, le changement de la donne d'un premier tour, se disent que finalement, ils peuvent se qualifier pour le deuxième tour. Et Valérie Pécresse, La semaine dernière, appelons-le, dans un sondage pour la première fois, battait celui qui était le tenant du titre et quasiment assuré de gagner le deuxième tour.
C'est ça qui a été, selon vous, l'élément déclencheur, ce sondage qui, le premier, hein, je le précise depuis de longs mois, donne un autre vainqueur que Emmanuel Macron au second tour.
Et oui, parce qu'on est dans un moment, comme on dit aux États-Unis, un momentum, un moment en France Pécresse. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui change aujourd'hui. Après avoir eu un momentum Zemmour, on a plutôt un moment Zemmour et un moment Pécresse, pardon. Et vous savez, une période de deux semaines qui s'ouvre vendredi et qui est une période un peu sanctuaire. Alors, à la fois étrange, hein, c'est une période où on fait les fêtes et où il y a les vacances, les enfants partent, on se retrouve en famille pour beaucoup d'entre nous. Et puis, alors, on va parler politique. Il y a rien qui se passe, des sondages peut-être la semaine prochaine, mais on va parler politique quand même. Et donc, il faut marquer le terrain, il faut couper finalement cet effet du moment qui Valérie Pécresse et essayer de taper là où ça fait mal. Et ça fait mal parce qu'on va prendre un prime time chez TF1 avec une omission qui, encore une fois, doit largement marquer les esprits parce que pendant deux semaines, on va parler politique. Et puis lui, il aura le privilège, disons-le clairement, du 31 décembre, c'est celui du président de la République, de souhaiter les vœux. Donc il va essayer de prendre en sandwich une période décisive dans les conversations, une période décisive pour marquer le territoire politique à 4 mois seulement de l'élection présidentielle.
La candidate, les Républicains, Valérie Pécresse, qui est en quelque sorte la victime collatérale de cette interview présidentielle, puisque l'émission spéciale qui lui était consacrée et qui devait être diffusée ce soir sur BFM a été reportée. Valérie Pécresse, comme d'autres candidats d'ailleurs, vont saisir le CSA pour que le temps de parole du chef de l'État soit décompté. Ils ont raison, selon vous, d'estimer qu'il y a une rupture d'égalité?
Vous savez, c'est toute la difficulté en général de celui qui est, je le disais tout à l'heure, le tenant du titre, celui qui est le sortant, ou soyez une élection municipale, du conseil régional, ou et via fortiori de la présidence de la République. Et il y a forcément dans une période où on ne se dit pas candidat, lorsqu'on pense qu'on va l'être, évidemment, on ne peut pas imaginer à ce instant qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui en tout cas, ne soit pas candidat à sa réélection, il y a une période, effectivement, où celui qui est en place ou celle qui est en place, bénéficie d'un avantage concurrentiel très important, puisqu'il peut venir sur des enjeux qui sont comme la semaine dernière, les enjeux européens ou internationaux, venir prendre de l'espace médiatique, prendre un temps médiatique qui, de fait, l'expose.
Mais il y a un précédent, tout de même, janvier 2012, je me souviens, Nicolas Sarkozy avait, dans un même exercice, procédé à une interview, et là, le CSA avait décompté son temps de parole, alors que Nicolas Sarkozy n'était pas encore candidat officiellement.
Exactement, parce que là, on sent bien qu'on est dans une construction très différente. La semaine dernière, c'était un moment, un rythme, peut-être effectivement une actualité particulière. Les vœux sont évidemment un temps particulier là aussi du président de la République. Là, on sent bien qu'on est dans une construction et qu'on est dans la fabrication d'un moment, je le dis très clairement, c'est un prime time, 20h, c'est 21h, TF1, c'est quelque chose qui, évidemment, a un prix, je dirais même politique, et donc va impacter très fortement cette campagne, j'imagine dans le bon sens pour lui. C'est vrai que si on est candidat de l'autre côté, on a envie de réagir, quelle que soit la position qu'on peut avoir.
Vous disiez tout à l'heure que les fêtes sont un moment propice pour parler politique autour du réveillon, autour de la dinde, en famille. Mais est-ce que les Français ont réellement la tête à ça, de parler politique au réveillon après 2 ans de crise sanitaire? Est-ce qu'il n'y a pas là un mauvais calcul des équipes de communication de l'Élysée?
Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a toujours, si vous voulez... la politique, c'est un objet qui est largement partagé, surtout lorsque... On a eu un an, vous le disiez, un an et demi quasiment de chape de plomb sur le débat public. Et c'est vrai que, regardez, on a recommencé à vraiment parler politique depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis la rentrée de septembre. Il y a eu du débat, des candidats nouveaux, l'irruption d'un candidat qu'on n'attendait pas. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une nécessité, je pense, du point de vue du président de la République, une envie en tout cas, d'impacter cette conversation. Une conversation qui aura lieu, évidemment, le soir de Noël, le soir de peut-être du 31, il n'y aura pas de politique, et encore ça reste à démontrer. Mais tout le reste du temps, les gens vont se retrouver. Il y a des moments autour du grand moment, des moments collectifs autour du grand moment célébré par la période. Et vous savez, il y a toujours un effet comme une espèce de musique qui est là. Si on est absent, on est absent. Et si on laisse à la longueur d'onde, je dirais, des fêtes de fin d'année à Valérie Pécresse ou à quelqu'un d'autre, on la laisse et c'est difficile. quand on a un candidat qui ne se dit pas, mais qui est réellement un candidat, c'est d'ailleurs Emmanuel Macron.
En tout cas, le timing de cette émission peut surprendre parce qu'elle intervient moins d'un mois après la dernière allocution du chef de l'État et moins d'une semaine, vous y avez fait référence à cette conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne. Est-ce que c'est le signe qu'Emmanuel Macron est impatient de se jeter dans la mêlée pour 2022, voire inquiet de voir l'essor de tous ses candidats autour de lui ?
Je pense qu'il y a un peu les deux. C'est un cocktail qui est un cocktail à la fois offensif, mais aussi quand même il y a une dimension défensive, j'ai envie de le dire. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'inquiétude. Je vous le disais, la semaine dernière, il y a eu quand même, il y a moins d'une semaine d'intervention. Et en même temps, la semaine dernière, nous avions un moment charnière qui est l'arrivée d'une candidate pour les Républicains.
Mais il n'y a pas un risque à trop parler, à être trop présent ?
Ça, c'est évident que vous prenez un risque, mais vous savez... vous avez un besoin très fort de mobiliser vos supporters. C'est-à-dire qu'il faut que dans cette période-là, puisqu'il sait qu'il a un premier tour à jouer, il est évidemment en tête aujourd'hui des sondages, mais il a besoin de s'installer, de consolider cette certitude qu'il y a un premier tour pour lui qui est gagnant. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une volonté, surtout dans cet état de fait, de couper l'effet potentiel positif de Valérie Pécresse, et surtout lui, d'affirmer dans ce temps-là, encore une fois, vous avez une semaine, le président de l'Union européenne, dans 15 jours, vous aurez quelque chose sur les vœux, et puis tout de suite, on va entamer, la rentrée de janvier vient très rapidement, dans un moment, rappelons-nous, l'élection présidentielle a été avancée 2 semaines cette année, donc on aura un vote qui se déroulera fin avril, la deuxième quinzaine d'avril. Donc on aura quelque chose qui maintenant va être très rapide. Et laisser planer l'incertitude, vous avez raison, c'est une question qu'on peut se poser du point de vue de l'opposition, mais aussi de ses propres équipes. Mais vous avez un besoin de marquer votre territoire, de reprendre en main l'agenda. Ouais. C'est important, très important.
A fortiori, avant les fêtes de Noël, comme vous l'avez rappelé. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue et conseiller en communication. Je vous souhaite une très bonne journée et de bonnes fêtes.
Moi aussi, merci beaucoup.
On termine avec votre partition, Omblin, consacrée à l'un des maîtres du funk. Si James Brown est le créateur incontesté du genre, George Clinton est celui qui l'a rendu psychédélique au début des années 70.
L'excentrique George Clinton, Julien, leader de deux formations, Parliament et Funkadelic. Il peut effectivement se targuer d'avoir inventé plus qu'un genre, un univers à part entière.
Quand il commence dans la musique, George Clinton rêve d'intégrer le label Motown à Détroit.
Il crée le groupe de doo-wop The Parliament, de son propre aveu, une copie des Temptations. Influencé par les guitaristes Sly Stone et Jimi Hendrix, il laisse tomber le costume cravate pour des choses plus colorées, plus extravagantes. Avec l'arrivée du bassiste, aux lunettes et à l'instrument en forme d'étoile, on le connaît bien, Bootsy Collins, naît alors le groupe Funkadelic, qui distille une musique funk nettement plus électrique avec des notes rock. George Clinton jette les bases d'un style qu'il baptise P-Funk. La lettre P est entourée de mystère, un P pour psychédélique, pour pur funk, ou pour son ancien groupe Parliament.
En 1974, alors que Funkadelic connaît ses premiers succès, George Clinton réactive Parliament.
Ouais, il y a de quoi s'y perdre. Hein. Lui aussi se mélange un petit peu parfois. Entre les deux, il faut dire que les deux formations regorgent d'hymnes à la fête et à la danse. Quant aux différences, pour résumer, Funkadelic fait la part belle aux guitares et aux revendications politiques. Parliament utilise les cuivres. Quoi qu'il en soit, George Clinton, ce docteur Funkenstein, est un mélodiste hors pair. C'est de lui, hein. L'un des musiciens les plus samplés de l'histoire de la musique. Nombreux sont les rappeurs et les DJ qui vont directement puiser dans le répertoire de Funkadelic et de Parliament.
Venons-en aux cuivres de Parliament alors.
Vous avez compris le truc, hein, les cuivres de Parliament. Fraîchement libérés de leurs obligations vis-à-vis de James Brown, hein, on a déjà évoqué cet épisode ici, le saxophoniste Maceo Parker et le tromboniste Fred Wesley rejoignent Parliament. Avec leurs cuivres, ils offrent aux compositions de George Clinton une dimension bien plus jazz. L'album qui sort, Mothership Connection, consacre la carrière de Parliament, devient une référence de la musique funk. George Clinton s'amuse avec l'imagerie de la science-fiction de l'époque. En concert, il débat débarque sur scène en soucoupe volante, déguisée en cosmonaute. Parliament, le groupe de George Clinton, reconnaissable avec ses plumes et ses rubans entortillés dans ses dreadlocks, c'est vraiment un personnage. Give Up the Funk, extrait de l'album Mothership Connection, sorti il y a donc tout pile 46 ans, le 15 décembre 1975. George Clinton est toujours sur scène. Il sera en Europe au mois de mai, uniquement au Royaume-Uni pour l'instant.
Comme tout France, George Clinton. Merci beaucoup, Omblin. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi pour la météo. À tout de suite.
Europe Matin. 6h27, on vous souhaite une très bonne matinée et on vous dit à demain sur Europe 1.
Dès 5h, bon pied, bon oeil, on sera là pour vous réveiller. En attendant, la matinale se poursuit avec vous, Dimitri Pavlenko, bonjour.
Oui, voilà, avant de partir, on se dit bonjour
quand même.
Bonjour
Ambline,
bonjour Julien.